Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte un crime qui se déroule sous Napoléon III, une affaire donc du milieu du 19e siècle, l'affaire Dumollard, Martin Dumollard, un tueur en série qui tuait des bonnes pour les dépouiller de leurs vêtements. Quand les gendarmes impériaux entrent dans sa maison, ils y trouvent 646 vêtements de femmes différents. Une histoire que je suis capable de vous raconter grâce au travail formidable d'un passeur de mémoire de la région lyonnaise, Rémi Cuisinier, qui sera là tout à l'heure, qui a publié en 2008 aux éditions La Taillanderie, Dumollard, l'assassin des bonnes. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1. Christophe Ondelat.
Je vous emmène à l'hiver 1855 dans la forêt de Montaverne, dans l'Ain. On est en fin d'après-midi, la nuit commence à tomber, et quatre chasseurs, fusils en main, battent la campagne. Ils arrivent à l'étang de chevreaux, et là, l'un d'entre eux se met à hurler.
Au nom des dieux ! Là ! Là, venez voir ! Venez voir !
Dans l'herbe, un corps de femme, jeune, nu, dans un bain de sang.
Tu la connais, toi? Moi, ça me dit rien. Oh ben non, c'est pas quelqu'un de par chez nous, ça c'est sûr.
Un peu plus loin dans les herbes, encore du sang, et ses vêtements. Un foulard de laine, un col brodé, une jarretière, un peigne en corne, et aussi un bonnet blanc, percé et taché de sang. Les quatre courent prévenir le maire, qui lui-même fait prévenir le procureur impérial en personne. Le procureur arrive avec un médecin.
Elle a été frappée par un objet tranchant, c'est évident.
Elle a été violée, à votre avis ?
Voyons voir.
Non, je ne pense pas.
Autre chose, docteur ? Elle a le bout des doigts piqué, comme une couturière, vous voyez.
Le procureur impérial désigne un juge d'instruction, Antoine-Louis Génaud, qui est bien dans l'embarras parce qu'il ne sait pas qui est la morte. Il n'y a pas de papier, il n'y a aucune indication. Quand on ramène le corps au village...
Y a-t-il quelqu'un qui la reconnaisse ?
Personne ne la reconnaît, personne. Et là, le juge Génaud a une idée révolutionnaire. Juste avant qu'on ne l'enterre, il fait faire une photo. En 1855, on n'avait jamais vu ça, une photo dans une enquête de police. Pendant des mois, rien. Et puis, le juge est informé d'une autre affaire. À peu près à la même époque, une autre femme, une certaine Olympe Alubert, raconte une drôle d'histoire. Elle a peut-être eu affaire à l'assassin. Un bonhomme lui a proposé une place de bonne bien payée chez ses patrons. Ça l'intéressait, elle l'a suivi.
Il m'inspirait confiance, vous comprenez ? Oui, il avait un air bon enfant.
Elle raconte qu'en chemin pour lui présenter ses nouveaux patrons, l'homme s'est mis à ralentir, à faire des détours. Et dans le coin du bois de Montaverne, justement, elle a pris peur. Elle a vu une ferme au loin, elle a couru jusqu'à la ferme.
Vous êtes capable de le décrire, cet homme, Madame Alubert ?
Dans les 45-50 ans, la figure est assez laide, hein, avec la lèvre fendue, boursouflée.
Habillé comment ?
Une blouse bleue, un peu passée, un pantalon de velours, noir, râpé, un drôle de chapeau de feutre et des gros souliers ronds.
Faute de mieux, voilà donc l'homme qu'on recherche désormais, un homme à la lèvre fendue, boursouflée. Et ça, c'est pas banal. Ça doit se retrouver. Le garde champêtre de Tramois en connaît un. Un certain Jacques Verger. Il a le bon âge, la cinquantaine, et c'est un domestique comme la fille Alubert. Mais, renseignement pris, il est parti à Lyon il y a 3 ans.
Il a dû revenir. C'est sûr. C'est lui qui a fait le coup.
À cette époque, on ne s'embarrasse pas. Et donc, au printemps 1856, on va l'arrêter à Lyon. Et on l'inculpe d'assassinat et on le jette en prison, malgré ses dénégations.
Mais c'est pas moi! Je suis innocent! J'étais à Lyon en février 55! Je suis pas revenu dans l'Ain depuis 2 ans.
Il a beau gueuler comme un veau, il a la lèvre fendue.
Passe à lui.
Là-dessus, toujours à la même époque, le juge Genot découvre le cas d'une certaine Jeanne-Marie Bourgeois. Elle raconte que 5 mois plus tôt, un paysan lui a proposé une place de bonne d'enfant à la campagne, payée 200 francs l'année. 200 francs, c'est une sacrée somme. Et donc, elle a préparé son barda et elle a suivi le paysan sur les chemins de la Saône pour aller rencontrer cet employeur providentiel. Mais voilà qu'il a pris des chemins de traverse. Et à un moment, il lui a demandé si elle avait des économies. Alors elle a pris peur. Elle s'est enfuie. La même histoire que celle d'Olympe à Lubert. Le juge fait venir cette Jeanne-Marie Bourgeois et il lui présente son bonhomme à la lèvre fendue, Jacques Verger.
Ah non? Ah, pour sûr que c'est pas lui, monsieur le juge? Ah, pour sûr?
Ah? Le juge est bien Marie, mais il renvoie tout de même Verger en prison pour 3 mois de plus. Et puis finalement, on vérifie son alibi. Il était bien à Lyon en février 1855. Ça n'est pas lui. Et il peut remercier la brave Jeanne-Marie Bourgeois, parce que sans elle, allez savoir s'il n'aurait pas été guillotiné. Le juge n'a plus de suspect, et il ne sait toujours pas qui est la morte. Jusqu'à ce que des parents viennent déclarer au maire de leur village la disparition de leur fille.
« Marie Badet, qu'elle s'appelle notre petite ?»
On leur montre la photo, le foulard, le peigne. C'est bien elle, une domestique de Lyon. Et voilà ce que raconte sa patronne.
« Marie Badet ? Oh ben, elle était à mon service depuis quelques jours. » Et puis un dimanche, elle est venue me trouver, elle m'a dit « Madame, je pars. J'ai trouvé à la campagne une place à 210 francs par an. » Je lui ai répondu « Mais Marie, vous ne pouvez pas me quitter comme ça. Ce soir, j'ai des invités. » Et elle m'a dit « Je regrette, madame, mais on m'attend en bas et on m'emmène sur le champ. » Alors elle s'est habillée en hâte. Je me souviens, elle a mis une robe verte, presque neuve. Et puis elle a pris un panier en osier. Et elle est partie. Oh, la pauvre gamine.
On a retrouvé son cadavre dans le bois de Montaverne, le soir même. Et donc maintenant, la morte a un nom, Marie Badet. Mais elle n'a toujours pas d'assassin. Et on se dit qu'on ne le retrouvera jamais, hein, ce type-là. Et donc en juillet 1856, la chambre du conseil des tribunaux de Trévoux classe le dossier Marie Badet, enterré au suivant. Et pourtant, 3 ans plus tard, à l'hiver 1859 à Lyon, il arrive exactement la même chose à une autre domestique, Julie Farja. Cette Julie vient d'être renvoyée de chez son maître parce qu'elle est enceinte. Et donc elle se rend à l'un des bureaux de placement de Lyon, une sorte d'ancêtre de Pôle emploi. Et là, elle est abordée par un paysan qui doit avoir la cinquantaine avec une blouse bleue et la lèvre fendue. Il lui propose une place de bonne bien payée à la campagne, chez lui.
« Je suis veuf, depuis 6 mois. Et chez moi, vous n'aurez qu'à vous occuper de mes 2 vaches. Hein. Je vous donnerai 15 francs par mois. »
15 francs ? Elle qui vient de se faire congédier, évidemment ça lui convient. Et donc elle fait son baluchon et elle le suit. Sur la route, il paye son repas, une soupe et des côtelettes, et il lui demande
« Dis donc toi, t'as de l'argent ?»«
Bah, un peu.
J'ai les gages de mon ancien patron, dans mon tablier. »
Et là d'un coup, il ralentit le pas.
« On a bien le temps, non ?»
Quand à la nuit tombante, il veut l'emmener sur un sentier, elle refuse tout net.
Et là, il se jette sur elle, il lui arrache son tablier, elle hurle, elle appelle à l'aide, mais personne ne l'entend.
Elle réussit à attraper son bagage et elle disparaît dans l'obscurité. Des fermiers la recueillent pour la nuit et elle leur raconte son histoire. Ils sont bouleversés. Alors le lendemain, il l'emmène à la gendarmerie de Saint-André-de-Courcy. Ce jour-là, Ils auraient mieux fait de se couper un bras, car les gendarmes, considérant qu'elle n'a pas de papier et pas un sou, la conduisent immédiatement devant le procureur impérial de Trévoux, qui l'inculpe pour vagabondage. Sous Napoléon III, on rêve d'une France bourgeoise. Il n'y a pas pire que le vagabondage. Et du coup, c'est à peine si son agression est enregistrée quelque part. Et l'homme à la lèvre fendue court toujours. Au printemps 1860, même genre d'histoire, avec une Louise Michel. Un homme à la lèvre fendue l'entraîne dans un bois et tente de la détrousser. Elle s'échappe, elle va trouver la police, mais rien, pas de suite. Au revoir mademoiselle. Sauf que les deux fermiers, qui avaient recueilli Julie un an plus tôt, sont mis au courant de cette nouvelle affaire, et donc ils vont voir les gendarmes et ils insistent. Et les gendarmes, finalement, écrivent un rapport et l'envoient au juge Génaud. Génaud fait venir la victime et il lui montre un vagabond qu'il a sous la main, un sieur Audrillat.
« Oh ben c'est pas lui, monsieur le juge.
Vous êtes sûr ?
Enfin, vous voyez bien, monsieur le juge. Cet homme-là a une lèvre qui est nette, hein ? Elle est pas fendue. Et puis il est plus vieux que l'autre. Il n'a pas la même taille non plus, ni la même corpulence. »
Le juge trouve ça fâcheux.
« Bien. Au revoir, mademoiselle. Portez-vous bien. »
Et encore une fois, il ne va pas plus loin. Au printemps 1861, plus de 5 ans donc après la mort de Marie Badet, une jeune femme vient voir le juge Genot. Elle s'appelle Marie Pichon.
« Voilà, monsieur le juge. C'était en mai à Lyon, sur le pont de la Guillotière. Un homme avec la lèvre fendue... »«
La même histoire, la même blouse bleue, la même tronche en biais.
Et je lui ai dit que j'avais une grosse malle, pleine d'habits, et qu'il n'était pas question que je m'en sépare. Alors au début, il l'a portée sur le dos. Et puis il m'a dit qu'il était fatigué. Et il a posé ma malle au milieu d'un champ. Oh, j'étais contrarié. Mais j'ai pas eu le choix.
La nuit est tombée. Et là, Marie a eu comme un mauvais pressentiment. Surtout quand, dans l'obscurité, elle l'a vu chercher une pierre bien lourde et ensuite essayer de déterrer un piquet de vigne.
Là, j'ai voulu m'enfuir, monsieur le juge. Il a sorti de sa blouse un lasso. Hein. Il a tenté de m'attraper au lasso. Comme si il attrapait un cheval ou une chèvre.
Mais il n'a attrapé que son bonnet. Et elle s'est échappée dans la nuit. Et elle a trouvé refuge chez un fermier. Le fermier a prévenu le garde champêtre qui a emmené la gamine à la gendarmerie. Et pour une fois, ça ne s'est pas arrêté là. Le maréchal des logis Tripart a réuni une petite escouade. Ils ont pris des lanternes et en pleine nuit, à 1 heure du matin, ils sont allés chercher la malle à travers champs.
Eh ben la malle, elle y était plus, monsieur le juge. Volatilisée.
Et là, le maréchal des logis Tripart a eu une idée lumineuse. Si la malle a disparu, c'est que le voleur est en mesure de la porter. Et s'il peut la porter, c'est qu'il n'habite pas loin. C'est qu'il est d'ici. De la logique, rien que de la bonne logique, de la police à papa. La meilleure. Presque 6 ans après le meurtre de Marie Badet, le juge Genot lance un mandat d'arrêt. La jeune Marie Pichon a donné une description précise. On recherche maintenant un homme de 50 ans, 1m70 environ, cheveux bruns et lisses, front couvert, yeux noirs vifs et foncés, barbe noire, teint basané, signe particulier, la lèvre supérieure grosse, double et saillante. Et une légère cicatrice sous le nez, et puis le dos voûté et de gros doigts. L'enquête de terrain est confiée à un garde champêtre qui s'en va donc courir la campagne en interrogeant les gens du coin. Et un jour, il s'arrête dans un cabaret de Dagneux, à 30 km de Lyon, sur la route d'Oyonnax.
Alors, bon, je cherche un homme de la cinquantaine, qui aurait
la lèvre supérieure fendue, hein, saillante, le dos voûté, la barbe noire, basanée. Ça vous dit quelque chose?
La lèvre fendue, vous dites? Voûtée et basanée?
J'en connais un, qui habite pas loin.
Ah bon? Et vous avez un nom?
Il s'appelle Martin Dumollard.
Le garde champêtre prévient le maire, qui prévient les gendarmes, qui préviennent le juge. Et le 2 juin 1861, les gendarmes arrivent chez Martin Dumollard pour l'arrêter. Il n'oppose aucune résistance. Le lendemain, le juge Genot fait venir Marie Pichon. Il lui présente ce Dumollard. Elle devient livide.
Oh, c'est lui. Je le reconnais. J'ai passé assez de temps avec lui. C'est bien lui.
Le juge Genot, pas peu fier, se tourne alors vers Dumollard.
Vous voyez, monsieur Dumollard, les déclarations de cette jeune femme sont d'une précision à vous confondre.
C'est qu'une menteuse. Moi, je suis jamais allé avec elle. Je l'ai vue nulle part. Elle se trompe.
Ah non? Non, ce qui prouve que je dis la vérité, c'est que d'autres personnes nous ont vus ensemble.
Et là, la jeune Marie cite le nom d'au moins 6 personnes qui les ont vues ensemble.
Oh ben qu'on les fasse venir, vos témoins là.
Et si elles vous reconnaissent, Dumollard?
Ah, alors c'est qu'elles se sont mises d'accord, hein? Moi, je jure que je suis innocent, comme l'enfant qui vient au monde.
Innocent comme l'enfant qui vient au monde? On verra, monsieur Dumollard. Martin Dumollard est envoyé sous les verrous. Et dans les semaines qui suivent, comme l'agression de Marie Pichon au lasso a fait grand bruit dans les journaux, des lettres venues de toute la France commencent à arriver sur le bureau du juge. Des femmes qui racontent la même mésaventure. Et des familles dont les filles ont disparu. Le juge n'est pas au bout de ses surprises. Le lendemain de son arrestation, le juge Genot organise une perquisition chez Dumollard, à Dagneux, donc à 30 km de Lyon. Une vieille bâtisse massive et rustique. Il y a là le juge de paix du canton, son greffier, le maréchal des logis Tripart, deux autres gendarmes, le maire, le garde champêtre de Dagneux et aussi Marie Pichon, au cas où on retrouverait le contenu de sa malle.
Ouvrez ! Gendarmerie impériale !
Personne. Alors on envoie chercher la femme de Dumollard au champ. Elle revient. Elle ouvre. Tout le monde entre dans la maison. Et là, incroyable, un entrepôt de chez Tati. Il y a des vêtements partout. Des montagnes de vêtements et uniquement des vêtements de femmes. Les gendarmes se mettent à les compter.
En voilà un. Deux. Trois. 4, 5...
Il y en a 646, dont 10 jarretières, 57 paires de bas, 38 bonnets, 10 corsets, 9 robes, 28 fichus, des dentelles, des jupons et des châles, et des coffrets, et des malles, des caisses, des trousses de couture. À y regarder de plus près, certaines robes sont couvertes de sang, et cachées derrière un fagot au-dessus de l'écurie, un gendarme découvre une pièce de tissu bleu à carreaux blancs que l'on montre à Marie Pichon.
« Oh ben, je le reconnais. Oh ben, c'est un de mes tissus. Il était dans ma malle. »
Le juge Genot se fait amener Martin Dumollard à son cabinet.
« Alors, monsieur Dumollard, comment expliquez-vous tous ces vêtements de femme que l'on trouve chez vous ?» Monsieur Dumollard, je vous écoute.
Je sais pas, moi. Il y en a que j'ai acheté à la foire, et puis d'autres que j'ai trouvés. C'est plus tôt, hein.
Le juge fait aussi arrêter sa femme, Anne-Marie.
Dites-moi, madame, d'où viennent ces habits?
Oh, ben, c'est pas bien. Mon mari les a sans doute achetés.
Vous savez, madame, à ce rythme-là, Ce qui vous attend, c'est la guillotine, hein. Tandis que si vous parlez, vous sauvez votre tête.
Ah bon? Je peux dire des choses, alors? Je peux dire que mon Martin, l'autre jour, il est rentré avec une malle.
C'était le soir de l'agression de Marie Pichon. Elle dit qu'il est allé brûler son contenu dans le bois des Rouillonnes. Alors le juge ordonne qu'on fouille le bois et qu'on creuse. Et on retrouve tout le contenu de la malle de Marie Pichon. Mais c'est pas tout. Parmi les vêtements accumulés dans sa maison, on retrouve une robe verte et un tablier noir que les parents Badet reconnaissent tout de suite. Ils appartenaient à Marie Badet, retrouvée morte en 1855. Le juge fait venir toutes les servantes qui ont été agressées et volées. Et toutes retrouvent un peu de leur garde-robe. Et toutes reconnaissent Dumollard. Et elle alors, la femme Dumollard, Anne-Marie, qu'est-ce qu'elle sait de tout ça? Le juge la fait revenir dans son cabinet.
Vous nous cachez la vérité, madame.
Hein?
Alors que vous savez tout.
Elle a dû faire le calcul, garder le silence plus longtemps ne lui apportera rien qui vaille.
Oh ben oui, je vais vous dire ce que je sais. Il y a à peu près 4 ans de ça, mon mari il est revenu en pleine nuit. Il tenait une montre en argent. Et aussi des vêtements pleins de sang. Qu'est-ce que t'as donc fait de lui demander? Il m'a dit, j'ai tué la fille. Au bois de mon main, qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'y retourne l'enterrer. Et puis il est reparti. Et puis même chose au début de cette année, il rentre encore au milieu de la nuit. Cette fois, il a pris des boucles d'oreilles en or. Et un châle. Et une robe, une chemise de nuit. Notre harde de femme. Je crois bien qu'il y avait des taches de sang aussi. Je lui demande ce que c'est, il me dit. J'ai tué une fille au bois des communes. Et il est ressorti pour l'enterrer.
Et donc, 3 jours après, une petite troupe emmenée par le juge Genot se rend au bois de Montmain. On déterre un premier cadavre. On ne saura jamais qui c'est. On l'appellera l'inconnu du bois de Montmain. Le lendemain, rendez-vous au bois des communes. C'est trop grand. On ne le trouve pas. Et là, Dumollard lâche.
Moi, je connais où qu'il est le corps, hein. Je peux vous y conduire.
Un aveu. Et là, il montre un endroit. On creuse. Et on sort le corps d'une femme, nue. En bon état de conservation, Marie Eulalie Busseau. Portée disparue depuis février 1861. Elle a été violée, assommée et enterrée vivante. Le juge Genot boucle son instruction. On attend maintenant le procès du tueur de Beaune. Le procès des Dumollard, mari et femme, s'ouvre en janvier 1862 à Bourg-en-Bresse. Il fait un froid de canard, mais la foule se presse dès l'aube devant le tribunal. Et l'on compte bientôt entre 4000 et 5000 personnes. Pour rentrer dans la salle d'audience, il faut un billet d'autorisation. Les autres restent dehors. Ils se contenteront de voir passer l'accusé de la prison au tribunal.
On le voit là! Il est là!
Dumollard est entravé aux pieds et aux mains, et il fait le bravache.
Hein? Ouais, me voilà! Hein? C'est bien moi, Dumollard!
Les journaux de l'époque croquent le portrait d'un paysan au visage cuivré, avec la lèvre boursouflée, les cheveux bruns plaqués en franges et un collier de barbe qui lui donne un air d'homme des cavernes. Tout en reconnaissant que ses yeux bleus lui donnent un air débonnaire. L'acte d'accusation n'a retenu que 12 victimes, 3 qui ont été assassinées et les autres volées ou agressées. À 10 heures, le procès commence. Et là, on apprend que le père de Dumollard, qui était hongrois, a été condamné à mort en 1814 pour un crime atroce et qu'il a été exécuté par écartèlement. Il a été écartelé écartelé en place publique. Écartelé. Et le petit Martin n'avait que 4 ans, il a assisté à toute la scène. Même s'il dit qu'il ne s'en souvient pas. Il y a donc un traumatisme lourd chez Martin Dumollard. Ça n'excuse rien, hein, mais ça explique. Le président passe à autre chose.
Monsieur Dumollard, il paraît que vous frappiez votre femme pendant la nuit.
Oh, pas pendant la nuit?
C'était pendant le jour, alors.
Ça m'irritait, ça me fatiguait sans cesse. Et, ma foi, la colère m'emportait malgré moi.
Évidemment, on s'interroge sur le rôle de sa femme. Jusqu'à quel point était-elle sa complice?
Madame Dumollard, comment avez-vous pu porter des habits de morte?
Ben, c'est que c'était avec répugnance. Et sur l'ordre de mon mari, il m'y contraignait.
Mais Dumollard, lui, n'avoue toujours rien.
Mais enfin, Dumollard, avez-vous tué ces femmes? C'est pas moi, je vous ai dit. C'est des inconnus, deux inconnus.
Depuis son arrestation, il prétend avoir agi sur commande de deux individus barbus dont il ne connaît pas les noms. Il devait leur livrer des femmes. Personne n'y croit. Il exaspère tout le monde.
Et d'où viennent, monsieur Dumollard, ces monceaux de vêtements?
Ben, j'ai reçu 4 paquets de ces messieurs les inconnus.
Et le corps de Marie Eulalie, monsieur Dumollard, c'est vous quand même qui nous avez indiqué où il était, puisque vous avez emmené les gendarmes là où elle était enterrée.
Oui. Mais c'est pas moi qui les ai tués, c'est les barbus.
À un moment, Dumollard va même plus loin. Il prétend avoir tout tenté pour libérer les filles des griffes des barbus. Et d'ailleurs, un jour, à une suspension d'audience, il aperçoit Marie Pichon.
Mme Pichon? Malheureuse. Sans moi, vous seriez plus là. Vous devriez me remercier, hein? Je vous ai laissé échapper des gros barbus.
Le public qui assiste à la scène est estomaqué. Les huissiers doivent intervenir. Dans son box, Dumollard a pris l'habitude de casser la croûte pendant les débats. Il sort un quignon de pain de sa poche, il le frotte avec un peu d'ail, il ajoute un morceau de charcutaille et il mange tranquillement. L'assistance est indignée, mais le président laisse faire. Le dernier jour du procès, le procureur se lève pour plaider.
Lui est un être oisif, hein, lubrique, rusé, cruel. Et elle, voyez-vous, elle a choisi son lot. Qu'elle ne se plaigne pas.
L'avocat de Dumollard, maître Lardière, fait ce qu'il peut. Et il rappelle bien sûr la scène de l'écartèlement.
C'est ici, n'est-ce pas, que commence cette enfance déguenillée, trouée à travers les bouts de tous les sentiers.
Les jurés se réunissent pour délibérer. Le verdict est rendu 3 heures plus tard. Pour Martin Dumollard, c'est l'échafaud. Et pour sa femme, 20 années de travaux forcés. Il reste de marbre. Elle sanglote. Et quand on lui apprend qu'il sera guillotiné, il dit
« Oh, j'aime toujours mieux ça que d'être comme mon père. Écartelé sur une roue, en étant tiré dans tous les sens des chevaux. »
Le 8 mars 1862, au petit matin, une foule immense attend Dumollard sur la place de Montluel. Le curé s'avance vers lui.
Courage, mon fils. Hein? Vous allez dîner avec les anges au banquet éternel.
Passez donc devant moi, monsieur le curé. Vous ferez mettre le couvert.
Quand le couperet tombe, la foule exulte. Et c'en est fini du tueur des bonnes. Comme souvent à cette époque, on fait de l'histoire de Dumollard une complainte que l'on va chanter dans les cabarets. Et cette complainte s'achève par une morale absolument délicieuse. Servante trop bonasse,
Ça doit vous avertir, si bonnes soient les places qu'on viendra vous offrir. Prenez premièrement de bons renseignements.
Et c'est la fin de cette histoire que je tire directement du livre de Rémy Cuisinier paru aux éditions La Taillanderie, Du Mollard, l'assassin des bonnes. Et Rémy Cuisinier, je veux d'abord vous remercier parce que c'est grâce au travail de gens comme vous. Je vous ai présenté comme historien tout à l'heure. En vérité, je crois que vous avez été carreleur toute votre vie et vous consacrez une partie de votre vie à écrire l'histoire de votre région, c'est ça?
En fait, c'est à peu près ça. Et disons que moi, j'ai 78 ans, je suis né en 1941 dans les Monts du Lyonnais. Et à l'époque, c'était nous, les immigrés, qu'on venait travailler à Lyon. Et moi, j'ai été commis épicier dans un premier temps, nourri, logé, blanchi. Ce qui fait que ce qui concerne les servantes et les bonnes, c'est quelque chose que je connais bien déjà de mon époque.
Mais cette histoire, Rémy Cuisinier, elle courait dans le coin, vous l'aviez entendu petit ou vous l'avez totalement exhumé?
Alors, contrairement à l'affaire Vacher, c'est en faisant, je n'avais jamais entendu parler de Dumollard, c'est en faisant mes recherches sur Joseph Vacher, l'assassin des bergères, dans le département de l'Ain surtout, que tout le monde me parlait de Dumollard. Et donc, j'ai laissé passer quelques années et je me suis lancé à fond dans cette affaire Dumollard, en commençant par les archives départementales de Bourg-en-Bresse, qui sont extraordinaires puisqu'il y a 1383 pièces dans le dossier et dont parfois des morceaux de tissu des jeunes femmes assassinées qui sont agrafées au dossier.
Alors Rémy Cuisinier, la question du mobile. Évidemment, le premier mobile qui vient à l'esprit, c'est le vol. Mais il y a quand même là-dedans, je trouve, hein, un petit côté fétichiste. Et il vole au fond plus de vêtements que Madame Dumollard ne peut en emporter. Et il ne les vend pas puisqu'il les a chez lui.
Oui, disons que moi j'ai fait beaucoup de recherches, même parce que je pars des archives, je vais à la mémoire collective et puis je me rends sur les lieux. Et donc j'ai compris, il me semble, et j'en ferme personnellement mes certitudes, que Dumollard en fait c'était comme Victor Hugo parle de Dumollard dans le chapitre de Cosette, par rapport aux misérables, Dumollard c'était la misère sociale. Et quand il a épousé sa femme, disons Anne-Marie Martinet, qui était elle aussi miséreuse, ils étaient tous les deux domestiques et servantes à Saint-André-de-Courcy dans un château. Et quand il l'a épousée, moi je dirais que c'est la misère qui s'est mariée avec la misère.
Donc aussi la misère morale. Donc pour vous, le mobile, c'était le vol, rien que le vol. Il n'y a rien de fétichiste dans tous ces corsets de femmes?
Personnellement, je pense pas, mais j'enferme personne dans mes certitudes, mais c'est tout un ensemble. Et sa mère, à Martin Dumollard, puisqu'elle était veuve, elle mendiait d'ailleurs, mais c'était l'époque de Napoléon III, et vous avez bien fait de parler du contexte de l'époque, où on ne défendait pratiquement que les riches, et les petites gens, et surtout les domestiques et les servantes, ils n'en avaient rien à faire.
Sa femme, elle est donc du même tonneau, vous dites qu'elle vient d'ailleurs de la même misère. C'est un duo, il fonctionne à deux probablement, et je crois que vous aimez les comparer à Fourniret et Monique Olivier.
Oui, parce que quand j'ai sorti mon livre, c'était à peu près à la même époque, mais en fait, en même temps, c'est comparable et pas comparable, parce que Fourniret, c'est différent, mais c'est la complicité d'un couple. C'est par là que je fais la comparaison.
Alors ce qui saute aux yeux, c'est que sous Napoléon III, la police, la justice, les enquêtes, tout ça, c'était extrêmement bâclé. Et au fond, cette affaire n'émerge que par la ténacité des paysans qui avaient recueilli Julie Farjat.
Oui, et puis surtout la famille Barbet aussi, qui était à Mionnet, ou à Mont-les-Ragès, où une jeune fille qui s'appelait Olympe Alubert, qui a échappé à Dumollard et s'est réfugiée chez ces braves paysans. D'ailleurs, la famille Barbet est toujours dans la région là-bas.
Le juge Genot n'a pas poussé bien loin son enquête après la mort de Marie Badet, c'était l'usage à l'époque?
C'était l'usage, c'est sûr, parce que, je me répète, mais ils en avaient pas grand-chose à faire des petites gens, et encore moins des domestiques et des servantes. Mais cette affaire a eu un retentissement national aussi, puisque dans les domestiques, les servantes, elles venaient de toute la France, de plusieurs régions de France.
Mais elles ont toutes été dépouillées au même endroit, dans la même région. Il n'a pas fait de Tour de France. Hein.
Non, lui, il avait ses trajets. C'était un très bon marcheur. C'était une force de la nature. Et en même temps, parfois, il prenait aussi le train, puisqu'il prenait le train à Montluel pour venir à Lyon aussi. Hein. Et à Lyon, vers le pont de la Guillotière, il avait ses habitudes. Il mangeait, il logeait toujours au même endroit, vers la place du pont, qui existe toujours d'ailleurs. Et il avait ses habitudes.
Ouais. La maison de Dumollard existe toujours ?
Non, c'est, à Dagneux, là, depuis plusieurs années, c'est la municipalité qui en a fait une salle.
Ah, ils savent ce qui s'est passé là-dedans.
Oui. Et le paradoxe, c'est que dans cette rue, la rue s'appelle rue Dumollard, mais D-U, plus loin Mollard, M-O-2-L-A-R-D, ça n'a rien à voir avec lui, et c'est une coïncidence.
Alors, il y a quand même, bon, je dis, le juge Genot n'a pas fait de gros efforts pour faire avancer cette enquête, mais il y a tout de même cette photo qui est une grande première dans la police judiciaire en France, c'est-à-dire qu'on prend en photo la morte pour tenter de l'identifier avant de l'enterrer.
Ah ben pour moi, c'est extraordinaire. Je crois que même tous ceux qui sont les spécialistes dans les enquêtes policières ou la magistrature, ils sont épatés parce que c'était certainement une des premières fois, peut-être la première fois. Mais alors, pour placer le contexte, le maire, ils l'ont carrément, la femme qui était Marie Badet, là, qui était nue, ils l'ont carrément mis dans une pièce et la population a défilé devant, quoi, pour l'identifier.
Oui, comme ça se faisait à l'époque, mais enfin, cette photo, oui, quand même, un petit événement de l'histoire du crime en France. Je voudrais, du fond du cœur, vraiment, Rémy Cuisinier, vous remercier d'avoir écrit ce livre et de m'avoir permis, du coup, de raconter cette histoire que, sans doute, tout le monde avait oubliée et que vous avez exhumée du néant. Belle satisfaction.
Je vous remercie aussi, Christophe, parce que grâce à vos émissions, et depuis fort longtemps même à la télé, je peux vous dire que, personnellement, moi, je vous apprécie et je suis pas le seul, parce que vous êtes quelqu'un qui fait ça avec passion, sincérité et avec professionnalisme.
Merci beaucoup. On s'est envoyé des félicitations mutuelles. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire. Si vous aussi, dans votre coin, vous avez fait ce genre de travail, les livres, quelquefois, ne sont plus disponibles, envoyez-nous un petit mot, faites-nous passer un message. Ça nous intéresse et on partira de votre livre pour exhumer comme ça une histoire criminelle oubliée.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.